Bonjour à tous. C'est un plaisir pour nous d'être parmi vous ce matin pour vous rencontrer, rencontrer un grand nombre d'entre vous, même si certains visages me sont familiers, nous sont familiers, beaucoup de nouvelles personnes. C'est assez marrant parce que je travaille en fait dans ce bâtiment. Comme Olivier l'a dit, je suis nouvellement diplômé, mais je sers à l'IBB en tant que professeur. Donc c'est dans ce bâtiment que je me rends la plupart des jours de la semaine. Et pourtant, j'ai encore beaucoup d'entre vous à rencontrer. Nous sommes membres de l'église Emmanuel et Terbeck, donc nous habitons ici à Bruxelles, pas très loin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu 6, aujourd'hui, où nous trouverons le texte pour la prédication d'aujourd'hui. Matthieu 6. Et je lirai les versets 24 à 34. Matthieu 6 et les versets 24 à 34. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas, que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous ? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole à laquelle nous pouvons avoir accès aujourd'hui librement. Merci parce qu'elle est notre guide pour la foi et la vie. Je te prie que tout ce que je dise ce matin soit fidèle à ta volonté, à ta parole, que ton nom soit glorifié par chaque chose qui sera prononcée par moi ce matin. Je prie aussi que tu fasses que ton peuple soit à l'écoute de ta parole, qu'il soit encouragé et peut-être mis au défi par ce que nous allons voir dans ces versets ce matin. Que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent être témoins de la beauté de ton message pour eux. Et je prie toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. À quoi cela ressemble d'être enfin libéré de ses inquiétudes ? À quoi cela ressemble d'être enfin libéré de ses inquiétudes ? En mars 2022, une étude de l'IFOP en France révélait que, je cite, 95% des Français, alors il dirait probablement 95%, mais 95% des Français âgés de 18 ans et plus déclarent avoir au moins une grande source de stress ou d'anxiété. 95% des Français âgés de 18 ans et plus déclarent avoir au moins une grande source de stress ou d'anxiété. Au menu de la liste de ces sources de stress, on trouvait notamment à l'époque la guerre en Ukraine, la situation financière ou même sa famille. 95%. Et je dois dire que je ne suis pas si surpris par ce chiffre, ayant moi-même aussi à gérer ce fléau intemporel qui nous empêche de dormir, qui mine notre productivité, qui nous rend aigris, qui affecte nos relations, qui nous bloque dans la vie. Et j'imagine ne pas être le seul ce matin non plus, probablement rejoint par 95% d'entre vous au moins. Alors, à quoi cela ressemble d'être enfin libéré des inquiétudes? Vous l'aurez compris, c'est le sujet de notre passage aujourd'hui. Car pour répondre à cette question, je vous invite à nous plonger dans la Bible, vers la Bible, qui est la parole de Dieu, pour trouver des solutions à cette question. Car je crois que non seulement la Bible est pertinente pour nous aujourd'hui, en particulier sur ce sujet, mais que les réponses qu'elle apporte sont bien meilleures que celles que nous donne le monde, bien plus satisfaisantes. Alors que vous soyez un chrétien aguerri par des années à suivre Jésus ou alors en questionnement sur le sujet de la foi, ma prière ce matin pour vous et pour nous en fait, pour moi aussi, c'est que ce que nous montre Jésus soit une eau bien plus rafraîchissante que celles qui ne peuvent réellement satisfaire nos besoins, celles du monde, quand nous nous retrouvons prisonniers du stress, de l'anxiété, des préoccupations. Alors à quoi cela ressemble d'être enfin libéré de ces préoccupations? Le texte de ce matin donc est issu du sermon sur la montagne, peut-être le sermon le plus connu de Jésus-Christ. Et dans ce sermon, dans notre texte, Jésus nous exhorte par trois fois à ne pas nous inquiéter. Verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Verset 31, ne vous inquiétez donc pas. Et verset 34, enfin, ne vous inquiétez donc pas. Alors, de quelle manière Jésus adresse ce problème? Et je vous propose donc de découper notre passage selon ces trois exhortations et de voir donc trois idées ensemble ce matin. Un principe, une alternative et une discipline. Un principe, une alternative et une discipline. Et commençons donc par le principe, et c'est notre premier point ce matin, le principe face aux inquiétudes. Souvenez-vous que Dieu est votre bon Père céleste. En effet, l'inquiétude n'est pas un fléau moderne. Jésus, dans le passage, nous montre que ses contemporains devaient aussi apprendre à gérer ce problème. Alors, quelles sont les préoccupations des contemporains de Jésus dans notre passage? Regardez le verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. » La réponse donc, la nourriture et les vêtements. Jésus s'adresse ici à des paysans galiléens dont la nourriture, le vêtement dépendaient en fait du travail quotidien. Pas de virement en fin de mois, encore moins de cartes de crédit. À la fin de la journée, le travailleur recevait sa petite pièce d'argent qui lui permet d'acheter à manger pour lui et sa famille. Avoir suffisamment à manger était donc une préoccupation journalière. On parle donc ici de besoins tout à fait essentiels, tout à fait normal d'avoir en tête. Alors qu'est-ce que Jésus propose à ses contemporains face à ces inquiétudes? La réponse, il les invite à partir en promenade. Et ce que je vous invite à faire aussi, à partir en promenade dans les alentours de Bruxelles. Premier arrêt, le parc du cinquantenaire et ses environs. Il s'arrête et nous demande de regarder dans les arbres. Nous vivons, ma femme et moi, avec notre petite fille, dans la ville d'Etterbeek, donc juste à côté. Et notre appartement ne se trouve pas très loin du parc du cinquantenaire. Et de la fenêtre, on peut observer quelques arbres qui sont bien vides pendant cette période. Et donc, il suffit simplement de quelques minutes pour observer ces perroquets verts que l'on trouve partout dans la ville. Assez frappant de voir des perroquets verts dans les arbres. J'imagine qu'un jour, une personne a relâché un couple de ces perroquets et puis la diététique de Bruxelles, frites et gaufres, a fait qu'ils se sont multipliés, multipliés, multipliés. Regardez avec moi le verset 26. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. » Comment donc font-ils pour survivre ces perroquets verts à Bruxelles ? La réponse, votre Père céleste les nourrit. Deuxième arrêt de notre randonnée, le bois de Allerbos. Nous y allons souvent le printemps pour y admirer les jacinthes bleues qui y poussent naturellement. C'est vraiment un spectacle incroyable si vous ne l'avez jamais vu. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles, que les champs. Qu'est-ce qui fait fleurir ces jacinthes bleues ? C'est encore l'Éternel, le Dieu créateur souverain de l'univers. Ce que Jésus donc nous invite à faire tout d'abord dans notre passage, c'est d'observer, d'étudier, le verbe est même utilisé dans notre texte, d'étudier avec cette promenade les perroquets verts et les jacinthes bleues qui nous permettent de voir la providence de Dieu. Regardez comme je prends soin de ces oiseaux. Étudiez avec soin pour voir l'apparence de ces fleurs. C'est moi qui les nourris, moi qui leur donne le vêtement. En d'autres termes, les perroquets verts comme les jacinthes bleues sont des illustrations vivantes de la vérité fondamentale que Dieu prend soin de toute sa création. Dieu prend soin de toute sa création. Mais la promesse est encore plus époustouflante pour un groupe particulier justement de cette création. En effet, les disciples à qui Jésus s'adresse ici ne sont pas des simples perroquets ou des jacinthes bleues. Jésus le met en évidence deux fois. Regardez avec moi au verset 26. « Ne valez-vous pas plus que, en parlant des petits oiseaux ?» Et un peu plus tard, au verset 30, « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous ?» La raison qui fait que ces personnes à qui Jésus s'adresse ont un statut différent des perroquets verts ou des jacinthes bleues, c'est qu'ils ont une relation très particulière avec le Dieu qui pourvoit pour sa création. Au verset 26, au verset 33, et 15 autres fois en fait dans le sermon sur la montagne, Jésus rappelle à ces personnes à qui il s'adresse le privilège spécial qu'ils ont, celui d'appeler le Dieu créateur souverain de tout l'univers, leur Père céleste. Ils peuvent le faire parce que, en anticipation, bien sûr, de la mort de Jésus à la croix qui nous permet d'être adoptés dans la famille de Dieu, de devenir les frères et sœurs de Jésus. Et donc Jésus, en anticipation déjà de ce sacrifice à la croix, appelle ses disciples, explique à ses disciples qu'ils ont le privilège d'appeler le Dieu souverain et créateur de l'univers leur Père céleste. Et ce privilège équivaut une promesse, celle que le Dieu de l'univers, créateur souverain, est de notre côté, toujours. Imaginez, celui qui est en contrôle de la pluie et du beau temps, et donc des récoltes, celui qui tient les rois et tous les dirigeants de notre monde dans ses mains, celui qui, tout en soutenant tout l'univers, nous connaît aussi personnellement, celui qui est bon et juste, toujours, celui qui pourvoit pour toute bonne chose, celui-ci est votre Père céleste. Celui-ci est votre Père céleste. Mais peut-être que cela vous fait soulever le sourcil. Qu'est-ce qui se passe alors quand Dieu ne semble pas pourvoir, ou ne semble ne pas choisir de pourvoir. Que se passe-t-il quand il n'y a pas de nourriture sur la table? Et c'est une très bonne question. En effet, Jésus ne vit pas et ne parle pas à un monde de bisounours. Il a vécu au premier siècle dans un monde tout autant frappé par les famines et les besoins que le nôtre, voire même plus. Jésus est tout à fait réaliste et il sait que des chrétiens sont morts et mourront encore probablement dans le futur de faim. Il ne promet donc pas ici que tous ceux qui le suivent, tous ceux qui sont disciples, tous ceux qui sont chrétiens, auront de la nourriture sur la table. Ou alors qu'il pourvoira à une bonne note à l'examen, ou alors la santé, ou alors la sécurité à nos enfants, un conjoint, des sujets de préoccupation pour nous tous. Jésus ne promet pas ici ces choses-là. Alors qu'est-ce que ça change, au final, d'avoir Dieu comme bon Père céleste, si cela ne garantit pas que nous ayons de la nourriture sur la table, si ce n'est pas ce que Jésus nous promet ici? La réponse, je pense, ce que cela change, c'est que nous pouvons faire confiance à Dieu, quelles que soient nos circonstances. Nous pouvons faire confiance à Dieu, quelles que soient nos circonstances. Car Dieu connaît nos besoins. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a un bon plan et Dieu accomplit le bien pour ses enfants. Quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, qu'il y ait de la nourriture sur la table ou pas, nous pouvons en fait faire confiance en Dieu, notre bon Père céleste. Même si nous ne comprenons pas les circonstances que nous traversons, nous pouvons faire confiance en Dieu. C'est la foi dont Jésus nous met au défi à la fin du verset 30. La foi que le Dieu et créateur de l'univers est de notre côté. Alors, à nous qui voudrions avoir l'assurance que Dieu pourvoit à nos besoins quotidiens, Jésus, en fait, nous parle de beaucoup plus. Jésus nous dit, quelles que soient vos circonstances, votre Père céleste est de votre côté. Le Dieu de l'univers est de votre côté. Et quelle réponse, alors, à nos préoccupations? Quand la provision nous est donnée, quand nos besoins sont assurés par Dieu, qu'est-ce que Jésus nous dit? Tu as un bon Père céleste qui prend soin de toi, remercie-le. Quand ce dont nous avons besoin vient à manquer, que nous dit Jésus? Tu as un bon Père céleste qui prend soin de toi, fais-lui confiance. Quand vient l'inquiétude face à notre futur, nos besoins, nos désirs, nos aspirations, que nous dit Jésus? Tu as un bon Père céleste qui prend soin de toi. Ne t'inquiète pas, fais-lui confiance. J'ai regardé sur Internet en préparant cette prédication pour voir ce que le monde avait à offrir face à nos inquiétudes. Beaucoup de magazines et de sites Internet recommandent, face à l'inquiétude, de reprendre du contrôle là où on le peut. Écoutez cet exemple que j'ai trouvé sur Internet. C'est l'astuce numéro 4. Prenez le contrôle. Le stress s'accompagne souvent d'un sentiment de manque de contrôle, d'impuissance. Trouver un moyen d'exercer un certain contrôle de la situation peut aider, mais ce n'est pas toujours possible. Vous ne contrôlez peut-être pas les échéances à votre travail ou le fait que votre jeune conduit votre voiture pour la première fois. Dans ces cas, trouvez d'autres aspects de votre vie que vous pouvez contrôler. Ce faisant, vous aurez confiance en vos capacités de gérer les défis qui se présentent et conserverez une attitude positive. La solution du monde face aux inquiétudes, reprendre le contrôle. Même quand on n'a pas contrôle, trouver une petite chose pour reprendre le contrôle, mais qu'est-ce qu'il en est de la grande chose en quoi nous n'avons pas le contrôle? Bien heureusement, la solution de Jésus est tout l'inverse. Quand le stress, l'anxiété, l'inquiétude arrivent, Jésus nous dit, laisse tomber le contrôle et dépend de Dieu. Ton bon Père céleste, fais-lui confiance. Il a ton bien comme objectif. Face aux inquiétudes alors, le principe de Jésus, notre premier point, le principe de Jésus, et celui-ci. Souvenez-vous que Dieu est votre bon Père céleste. » Alors on pourrait s'arrêter là, car je crois ici que Jésus nous donne le principe par excellence. Nous avons nos inquiétudes par rapport à ce dont nous avons besoin. Jésus nous dit que le pourvoyeur de toutes bonnes choses, le souverain absolu de l'univers, est de notre côté. Mais s'arrêter là, je pense, nous ferait passer à côté de ce que le texte cherche encore à nous dire, car il semble aller beaucoup plus loin. Et ce serait par exemple passer à côté du premier mot qui est dans le verset 25 et qui introduit cette conversation sur les inquiétudes. Le « c'est pourquoi ». C'est pourquoi nous invite à regarder juste avant au verset 24 pour comprendre un peu ce qui introduit cette conversation. Et je le lis avec vous. Verset 24. « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Alors on pourrait discuter ce matin en plus en détail de l'argent et de la manière dont il peut devenir une idole, mais dans le contexte de notre passage sur les inquiétudes, il me semble que Jésus utilise ce sujet-là comme une sorte d'introduction pour nous mettre face à un choix. Il nous explique, si nous sommes préoccupés par l'argent, si nous occupons notre esprit par l'argent, alors nous ne pourrons pas nous préoccuper de Dieu, de nous occuper au sujet des choses qui le concernent. Si nous sommes préoccupés par nos besoins matériels, nous aurons du mal à consacrer du temps dans notre cœur pour nous préoccuper des choses de Dieu. En clair, je voudrais vous montrer maintenant que la raison pour laquelle Jésus nous libère de nos préoccupations, de l'anxiété, ce n'est pas simplement pour notre santé mentale ou notre rythme cardiaque. Non, en fait, c'est aussi pour nous libérer afin de vivre pour Dieu. Jésus nous libère des préoccupations afin de nous libérer pour vivre pour Dieu. Et c'est donc notre deuxième point ce matin. Après le principe, souvenez-vous que Dieu est votre bon Père céleste. Notre deuxième point, l'alternative, cherchez le royaume de Dieu. Dans les versets 31 à 33, Jésus nous met devant un choix. Option 1, rechercher comme les membres des autres peuples. Option 2, rechercher comme un enfant du Père céleste. Regardez avec moi les versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Le choix donc, faire comme les membres des nations, les païens, qui recherchent et se préoccupent d'abord de ce qu'ils mangeront, de la sécurité matérielle, du manger, du boire et de l'habillement, ou alors rechercher le royaume de Dieu et la justice. Alors que choisir? Et en vrai, si on s'arrête sur ce texte et qu'on le médite, la réponse est assez évidente. En effet, si les membres des autres nations n'ont pas d'autre choix que de se préoccuper de leur habillement et de ce qu'ils boiront, en effet, qui s'occupera d'eux s'ils ne se préoccupent pas de ces choses? C'est tout l'inverse, en fait, pour les enfants de Dieu. Alors qu'ils recherchent le royaume de Dieu, Jésus leur dit, toutes ces choses leur seront données en plus. On pourrait donc paraphraser ce verset. Libérés de la contrainte de se préoccuper de leurs besoins, les enfants de Dieu peuvent rechercher le royaume de Dieu, faire de leurs préoccupations prioritaires le royaume des cieux. Je répète, libérés de la contrainte de se préoccuper de leurs besoins, les enfants de Dieu peuvent rechercher son royaume. Alors notez bien ici que Jésus ne dit pas « Préoccupez-vous un peu des affaires de Dieu et ensuite vous aurez ce que vous voulez vraiment. » Non, en fait, il explique plutôt que parce que nous savons que Dieu s'occupe de nos besoins, qu'il pourvoira pour ses besoins selon sa bonne providence, sa bonne sagesse, nous pouvons nous préoccuper de la place de son royaume. Nous préoccuper à la place de son royaume. Mais vous demanderez peut-être alors, à quoi cela ressemble de nous préoccuper du royaume de Dieu? À quoi cela ressemble de rechercher le royaume des cieux, si on reprend le vocabulaire du verset? Et il me semble que pour trouver une réponse, il nous faut considérer un autre endroit dans le sermon sur la montagne, un sermon qui commence au chapitre 5, qui finit à la fin du chapitre 7, mais qui est complètement cohérent et structuré. Et au centre de ce sermon, on trouve une prière, encore une fois, très connue, la prière du Notre Père. En effet, dans les versets 9 à 12 du chapitre 6, Jésus nous explique comment prier. Lisons ensemble. « Voici donc comment vous devez prier, Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » À quoi cela ressemble de rechercher le royaume de Dieu? Cela ressemble à mettre en pratique cette prière dans notre vie, de faire de cette prière l'influence pour toute notre vie, nos priorités, la manière dont on investit notre temps et notre argent, la manière dont on travaille, dont on s'occupe de sa famille. Cette prière qui est la nôtre, si nous sommes disciples de Jésus, enfants du Père Céleste, oriente alors tous nos désirs, nos préoccupations vers ce qui glorifie Dieu. Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vivre le Notre Père, c'est à cela que je pense ressemble de rechercher le royaume de Dieu. Et on comprend donc alors qu'il n'est pas nécessaire de quitter son travail forcément, vivre en ermite ou alors devenir pasteur pour vivre cette prière du sermon sur la montagne. Ce n'est absolument pas à cela que je vous appelle tous. Non, en fait, mais c'est bien plus radical ce que Jésus nous demande. Car en effet, il n'est pas en train de nous dire il y a deux types de travail, un travail pour Dieu, pasteur, évangéliste, et puis un travail pas pour Dieu, par exemple médecin, caissier, prof. Non, en fait, Jésus nous dit qu'il y a deux manières de faire n'importe quel travail. La première, c'est comme les nations, c'est-à-dire chercher à travailler pour s'assurer de pourvoir à ses propres besoins, en ayant cette préoccupation en priorité le matin quand on se lève, que l'on soit pasteur ou caissier. Mais il y a une deuxième manière de travailler, quel que soit notre travail, c'est de vivre avec la gloire de Dieu en priorité, dans l'assurance que Dieu pourvoira, qu'il nous donnera toutes choses en plus, libérés de l'inquiétude de pourvoir, de faire de notre travail la source de l'argent qui nous permet de vivre. Nous sommes libérés pour faire n'importe quel travail pour la gloire de Dieu. Si nous sommes libérés de nos préoccupations, c'est donc afin de pouvoir nous préoccuper à la place de la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume dans toute notre vie. Au travail, dans nos relations, dans la parentalité, dans la vieillesse, dans la santé, dans la maladie. Jésus nous appelle en fait, dans toutes nos circonstances, dans le travail qui est le nôtre aujourd'hui, dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, de ne plus nous préoccuper du manger et du boire, puisque Dieu, notre bon Père céleste, s'en inquiète pour nous, et de pouvoir ainsi vivre pour sa gloire et pour son royaume. Je vous propose de voir deux exemples que j'ai inventés, mais qui nous aident peut-être à voir de quelle manière cela peut ressembler dans la vie. J'ai inventé un nom, Apolline, j'espère qu'il n'y en a aucune ce matin. Apolline, donc disciple de Jésus, pourra donc se rendre à cette réunion tendue demain en paix. Elle sait que Dieu est son Père céleste, il pourvoira pour elle. Il a sa carrière dans ses mains, il a sa finance dans ses mains. Ainsi libérée de cette préoccupation de garder son travail, elle pourra tenir ce principe de la vérité en toute occasion, même si cela ne fait pas plaisir à son boss. En effet, depuis quelques mois déjà, certains de ses collègues sont intrigués par sa foi qui la motive à vouloir vivre dans la vérité en toute occasion, ne pas mentir aux clients, ne pas mentir à d'autres. Alors, elle se dit, ça ira bien avec mon boss, ou pas. Mais quel que soit le résultat, Apolline sait que son Père céleste est avec elle et qu'elle peut donc se préoccuper de vivre pour sa gloire en disant la vérité, quel que soit l'impact que cela pourrait avoir dans sa vie professionnelle. Prenez Jean-Bernard, disciple de Jésus, pour aller parler à son père en toute franchise. Il sait que même s'il pourrait avoir de bonnes raisons de cacher ce mensonge qu'il lui a dit, cela honore Dieu d'aller demander pardon. Il est vrai que aller demander pardon à son père pourrait avoir des conséquences sur la manière dont il le voit, le perçoit, et pourrait probablement remettre en question la promesse qu'il lui avait faite de lui donner de l'argent. Mais Jean-Bernard sait que son bon Père céleste prend soin de lui. Alors même si son père lui refuse de lui donner cet argent, Dieu trouvera une autre solution, ou pas. Mais quel que soit ce que Dieu choisit de faire, Jean-Bernard sait que Dieu est avec lui, Dieu est son bon Père céleste. Et que donc, il n'a pas besoin de se préoccuper avant tout de ses besoins, mais qu'à la place, il peut se préoccuper de vivre pour la gloire de Dieu, de rechercher son royaume, l'honneur de son nom, et donc dans cette circonstance, en allant demander pardon à son Père, quelles que soient les circonstances. Alors vous serez d'accord avec moi, Apolline et Jean-Bernard nous présentent des exemples assez radicaux, assez matures en fait, de cette foi en Jésus, de cette foi en Dieu et sa providence. Moi, j'ai le premier, j'ai besoin de grandir et la tâche semble immense. Et c'est pour cela, je pense, que Jésus nous met au défi de s'attaquer à cette discipline en ne mettant pas la barre trop haute. Et c'est notre troisième et dernier point ce matin dans notre texte, et plus rapidement. Après le principe de se souvenir que Dieu est notre bon Père céleste, l'alternative, libérée de ses préoccupations, nous pouvons nous préoccuper pour le royaume de Dieu, Jésus nous donne maintenant une discipline quotidienne. En effet, une troisième et dernière fois, Jésus nous invite à ne pas nous inquiéter au verset 34. Regardez avec moi. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Il nous invite à vivre aujourd'hui, à concentrer notre énergie, à faire confiance à Dieu aujourd'hui. Nous passons tellement de temps à nous inquiéter des choses du passé sur lesquelles nous n'avons plus aucun effet, ou des choses du futur qui sont encore trop loin. Que faire alors? Remettre à Dieu tous les jours ce qui est nos préoccupations aujourd'hui. Remettre à Dieu tous les jours ce que sont nos préoccupations aujourd'hui. Jésus donc nous invite, face aux inquiétudes, à nous rappeler un principe, souvenir que Dieu est notre bon Père céleste, si nous sommes enfants de Dieu. Une alternative libérée de nos préoccupations pour nos besoins, de pouvoir nous préoccuper du royaume, de rechercher le royaume de Dieu et de faire de cette discipline une discipline quotidienne. Je vous invite à prier pour conclure. Notre Dieu et notre bon Père céleste, merci parce que tu tiens tout dans tes mains et merci parce que tu pourvois pour tous tes enfants. Notre Dieu et notre bon Père céleste, donne-nous de placer toute notre confiance en toi, dans ta provision et dans ta sagesse de nous donner ce dont nous avons besoin. Libère-nous aujourd'hui de nos fardeaux, de nos préoccupations, pour nous rendre disponibles à vivre pour toi. Donne-nous de le faire aujourd'hui. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.